l'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac, qui se cultive toutes les semaines.
Ah mais attends, on est le premier jeudi du mois.
Ah oui, c'est l'actuel.
L'émission féministe pour il, elle et elle.
This time, we will do it by ourselves.
Les luttes sont toujours des luttes simultanées.
L'acte de procréation est un acte de liberté.
Non una, dimeno, pas une de moins.
Que l'aborto sea legal.
Abar patriarca.
Samanaye, aumaye.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'actuel. Bonjour Carole.
Bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes au lendemain du 8 mars et on est en plein milieu des grèves qui traversent la France contre la réforme des retraites, un mouvement qui porte des revendications féministes aussi. Et donc hier, on a fait une manif statique à Ocréa et c'était très chouette, il y avait des prises au micro et il y avait une chorale féministe qui s'est construite à ce moment-là.
Et donc, en ce moment de grève, on s'est demandé quelle est la place des femmes dans les grèves dans l'histoire, en France et surtout sur notre territoire, en Aveyron, au niveau local. Et donc aujourd'hui, nous abordons ces questions avec Michel Delmouly, historien, bonjour, et rédacteur de la revue d'histoire sociale Millavoise La Main Chaude. Avec lui, nous parlerons notamment des grèves dans le secteur du Gand à Millau et des grèves des cabanières à Roquefort au début du XXe siècle.
Et en deuxième partie, on bouge du côté des Cévennes. Claude Anselme sera avec nous au téléphone, cette fois-ci pour parler des grèves des fileuses de soie dans les Cévennes. Il est l'auteur du livre Rachel Cabane, la fileuse en révolte, qui retrace le combat de son arrière-grand-mère, fileuse de soie.
En fin d'émission, donc, vous pouvez retrouver la chronique littéraire d'Alex. Alex, tu veux nous dire de quoi elle parle ?
Je vais vous présenter le livre de Starwalk qui s'intitule « Comment s'organiser, manuel pour l'action collective ».
Et on va écouter tout de suite un petit extrait d'un document qui nous vient d'Ukraine de féministes LGBTQIA+, qui sont en lutte et qui voulaient nous partager leurs revendications pour le 8 mars.
Le 8 mars, un jour qui symbolise la liberté, un jour qui donne envie de se battre, un jour où les voix des féministes peuvent être entendues par des millions de manifestantes marchant sur le chemin de l'égalité. Mais le chemin des femmes ukrainiennes a changé du tout au tout le 24 février 2022. Le début de la guerre en Ukraine est devenu un tournant existentiel dans la vie de millions de personnes. Une réalité paisible et sûre a brûlé dans les flammes des roquettes russes, a été écrasée par des chars marqués Z, a été tuée avec les civils de Boutcha. Des milliers de femmes ont décidé de résister à l'agression venue de l'Est. Elles ont rejoint les forces armées de l'Ukraine pour défendre leur foyer, leur famille, leurs amis, celles qu'elles aiment, la liberté et l'indépendance du peuple. Notre initiative soutient 8 femmes aux combattantes non-binaires qui, il y a 2 ans, ont marché pour l'égalité en Ukraine et dans le monde et qui aujourd'hui défendent l'Ukraine au prix d'incroyables efforts. Chacune d'entre elles est une héroïne. Chacune a une histoire incroyable. On se demande parfois combien de courage, de force, d'inspiration il y a dans une seule personne. Chacune d'entre elles a sacrifié quelque chose. Chacune d'entre elles a perdu quelqu'un. Ici, nous avons recueilli la parole de certaines de nos camarades.
Nous, les femmes.
Alors, pour avoir la suite, on a un vrai teasing parce qu'on a le début du témoignage, mais moi la fin. Vous pouvez l'écouter le mardi 14 à 19h dans le freestyle intempestif et en plus, ça sera disponible en podcast.
Et on a continué avec une petite revue de presse.
Radio Larzac vous présente la revue de presse, des pages aux voix.
The sun.
Donc aujourd'hui, une revue de presse internationale. La semaine dernière, Irène Ansari, militante féministe et coordinatrice de la Ligue de défense des femmes iraniennes pour la démocratie, est venue à Millau tenir une conférence. Et je voulais donc commencer par une nouvelle qui nous vient d'Iran, dont Irène Ansari a parlé aussi. En fait, depuis décembre, comme le révèle le quotidien italien Il Manifesto, des centaines d'étudiantes iraniennes ont été hospitalisées suite à un empoisonnement respiratoire. De l'azote sous forme gazeuse est dissous dans les classes d'université, ce qui cause des maux de tête, des vomissements et d'autres malaises, comme le détaille France Info. Et malgré les rigides contrôles de sécurité dans les universités, les auteurs restent encore inconnus, même si cette méthode d'intoxication collective a déjà été utilisée en Afghanistan par les talibans. Les femmes et les jeunes filles étant les porteuses de la contestation contre le régime en Iran, on pourrait donc soupçonner que ces intoxications soient l'œuvre des extrémistes religieux. Et on fait un grand voyage maintenant, on passe en Finlande, où le Parlement a adopté une nouvelle loi sur la reconnaissance du genre. Ce texte supprime l'obligation pour les personnes trans de prouver qu'elles sont infertiles ou stériles, ou de subir un examen psychiatrique afin de changer leur genre administratif. La newsletter Impact précise qu'il suffit désormais de déposer une déclaration écrite puis de se soumettre à un délai de réflexion pour du coup changer de genre. Cette nouvelle loi, en revanche, n'aborde pas la transition légale des enfants. Et Amnesty International Finlande affirme donc vouloir continuer à faire pression sur le gouvernement pour faire progresser les droits des enfants trans. Et on termine en France. Hier, le 8 mars, l'Assemblée nationale a étudié une proposition de loi qui vise à favoriser l'accompagnement psychologique des personnes ayant vécu des fausses couches. Le texte de la proposition de loi portée par la députée Sandrine Josseau prend appui sur une étude publiée dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology, selon laquelle, après une fausse couche, près d'une personne sur trois l'ayant vécu souffrirait de stress post-traumatique. Le magazine Mademoiselle, qui relate cette nouvelle, précise aussi que c'est une femme sur dix, ou plutôt une personne enceinte sur dix, qui serait sujette au cours de sa vie à une fausse couche, et ce sujet reste encore tabou. Et on avait de discuter avec Carole, mais hier, le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG. C'était dans le cadre d'un hommage qu'il a rendu à Gisèle Halimi. Alors on sent un peu l'instrumentalisation quand même.
Oui, légèrement, oui.
Mais bon, on va bien voir les développements. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette revue de presse.
Merci Sophia.
Et donc on peut commencer cette première partie avec notre invité Michel Delmouly. Bonjour à nouveau.
Oui, bonjour à vous.
Et donc vous êtes historien, rédacteur de la revue La Main Chaude. Et un numéro de cette revue est consacré aux grèves dans l'industrie du gant à Millau. Et si on regarde du côté des femmes, vous nous disiez tout à l'heure que les femmes restaient principalement à domicile, les ouvrières du gant, et que 25% des femmes travaillaient en usine. Donc quels étaient leurs rôles en fait dans cette fabrication, dans cet emploi?
Bah, c'était des couturières. Elles prenaient le gant quand il avait été coupé par le coupeur. Le coupeur, c'est l'homme qui exerce ce métier. C'est le noble métier dans la ganterie. Celui qui est le mieux payé, sur les épaules du coupeur, pèse des responsabilités pour l'entreprise. S'il se trompe, s'il coupe mal ses gants, il faudra ensuite reprendre la totalité du travail. Donc les couturières viennent après. Il faut à peu près 3 couturières pour un coupeur. Un coupeur coupe à peu près 24-25 paires de gants par jour et les couturières les cousent. Alors il y a plusieurs types de coutures, des coutures mécaniques et des coutures à la main, hein, du cousu main. Et la plupart des couturières travaillaient à domicile à Millau. Mais dans la ganterie, c'était la règle. Hein. À Grenoble, par exemple, qui est l'autre place gantière importante, il y avait plus de femmes qui travaillaient à domicile qu'à Millau. Et une autre place gantière importante, Chaumont, du côté de Langres, dans l'est de la France, là, toutes les femmes travaillaient en usine, c'est la seule. Et donc, ces femmes étaient relativement isolées pour les mobiliser, pour les accompagner. Enfin, dans une grève, c'était assez compliqué parce qu'elles travaillaient à domicile. Elles étaient toujours payées la moitié de ce que gagnaient les hommes, ça c'est une constante. La ganterie a été très misogyne. La place des femmes était une place qui venait après. Il y a eu deux moments importants. J'ai un peu de temps là.
Oui,
il y a eu deux moments importants, au moment de la guerre de 14 et au moment de la guerre de 39-45. Avec les mobilisations, la ganterie manquait de coupeurs de gants. Et donc, il a été, notamment en 1939, mis sur la table la possibilité d'apprendre aux femmes à couper les gants. Alors, couper les gants, les hommes ont dit non, non, c'est physique, c'est compliqué, etc. Et à chaque fois qu'il y a eu une proposition d'intégrer des femmes dans des salles de coupe, ces propositions ont été refusées par les syndicats. Et tous les syndicats. Hein. En 40, la CGT avait été réunifiée. Hein. Il y avait eu deux CGT avant, une communiste, une socialiste, CGT et CGTU. Elles étaient réunifiées, mais les leaders du syndicat CGT et du syndicat CFTC, donc Libourel et Monjol, ont refusé absolument que les femmes pénètrent dans les salles de coupe.
Et l'excuse de ces physiques, c'est une excuse ou c'était un peu physique quand même ?
C'est un peu physique, mais bon, ouais. Y a une femme, une seule femme qui a coupé des gants pour la ganterie Guibert, hein, qui se trouve, enfin, dont le reste du bâtiment se trouve à Avenue Gambetta. Ouais. C'était dans son usine à Homsas, à côté du Vigan. Là, il y a une femme qui a coupé des gants et qui coupait les gants comme les hommes. Hein, bon, parce qu'il y a des femmes qui peuvent couper des gants.
Oui, puis les femmes, elles peuvent être physiques aussi.
Enfin, bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Et il y a des hommes qui ne sont absolument pas physiques. Hein. Mais c'était. Non, ça a été systématique.
Et du coup, les grèves ont commencé par les hommes, c'est ça, de 1911 à 1935 ?
Oui, on a étudié deux grèves particulièrement, 11 et 35. Et là, ce sont les hommes qui sont partis en grève les premiers, et les femmes les ont rejoints rapidement. Mais l'initiative de la grève revenait aux hommes.
Et donc à ce moment-là, même les femmes à domicile, elles se sont mises en grève ?
Elles ont accompagné la grève, oui, bien sûr. Parce que de toute façon, il y a eu des usines occupées, donc les gants ne sortaient plus, les gants coupés ne sortaient plus. Donc effectivement, elles ont participé à la grève. Mais dans les assemblées générales, par exemple, de 1911 au 1935, il n'y a que des hommes. Que des hommes. On a publié les photographies là, pour 1911, puisque ça a été couvert par un photographe mis à voix à la grève de 1911. Dans le comité, ils sont 15, il n'y a que des hommes.
Et quand, en 1935, quand elles y étaient aussi, qu'elles les ont suivies, c'est ça que vous dites ? Elles ont revendiqué des choses pour elles-mêmes ?
Non. Non. C'est une revendication globale de rémunération, d'augmentation des salaires, puisque bon, en 1935, le patronat avait décidé de baisser les salaires de 33%, de 25 à 33%. Donc bon, la revendication, elle était salariale.
Et donc la question des inégalités, elle n'a pas été posée à ce moment-là ?
Non.
Par contre, vous me disiez tout à l'heure hors antenne qu'il y a eu par contre une grève des gantières en 56 à Sévrac, à Saint-Rome. Donc à ce moment-là, c'était plus particulièrement les femmes qui ont porté cette grève.
Ce n'était que les femmes. Alors, dans la ganterie, mais ce n'est pas à Millau. Hein. Le château qui a l'initiative.
C'est pas loin.
Oui, c'est vrai. Et puis la voie de chemin de fer qui fonctionnait tous les jours plusieurs fois à cette époque-là. Donc oui, les gantières à domicile, qui faisaient du cousu même pour l'essentiel, se sont mises en grève parce qu'elles se sont aperçues, d'abord qu'elles savaient que leur rémunération était faible, mais elles se sont aperçues au moment de partir à la retraite que leur retraite, elle n'avait pas été constituée, ou elle était constituée en partie seulement. Donc, elles se sont réunies. À l'époque, à Sévrac, le maire de Sévrac était un médecin qui s'appelait Trébosque. Et ce médecin avait été dans la résistance très actif. C'est lui qui avait été à l'origine du maquis de la région de Sévrac. Et donc, il a servi d'intermédiaire entre le comité, puisqu'elles ont créé un syndicat autonome, mais qui n'a pas été reconnu par les syndicats. Aucun des syndicats ne l'a accepté. Donc, elles ont créé un syndicat autonome de couturières. Et donc, il a servi d'intermédiaire entre ce syndicat et les patrons. Et la chambre donc, patronale de la ganterie de Millau, et elles ont obtenu quelques éléments de satisfaction. Mais elles ont manifesté à Rodez en mai 56, elles étaient 2000, ce qui est extraordinairement important. Mais bon, c'est une grève qui arrive quand la ganterie commence à connaître de grosses difficultés, à s'étioler, puisque bon, 70, 71, il y a le début des faillites et des disparitions. C'est Jonquet qui commence, Jonquet c'était la plus grosse entreprise de Millau, donc c'est un petit peu la fin là.
Oui, donc du coup, là, c'était plutôt pour sauver leurs emplois.
Oui, obtenir une rémunération augmentée et puis sauver leurs emplois, oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Et je voudrais maintenant passer à une autre grève qui a eu lieu plutôt à Roquefort. Donc c'était les cabanières de Roquefort. On sait que dans les caves, la main-d'œuvre était presque exclusivement féminine. Les ouvrières étaient appelées cabanières et les conditions de manipulation des fromages étaient éprouvantes parce que les caves étaient glaciales. Donc les basses températures causaient des maladies, de la tuberculose surtout. Et elles dormaient dans un dortoir religieux. Elles devaient rentrer à 9h le soir et elles étaient nourries chez des personnes désigné par le patron. Alors pour commencer à en parler, je voudrais vous faire écouter un extrait sonore que Michel, vous nous avez gentiment fourni. C'est Félicie Mazeran qui raconte ses souvenirs de cabanière embauchée à Roquefort en 1889.
Je suis née en 1887.
Vous nous avez dit que vous étiez rentrée
à 11 ans à Roquefort.
Un peu avant 1900.
Oui. Quand nous sommes allés à Roquefort, qu'on n'avait pas l'âge, quelquefois, quand ils savaient que les messieurs devaient venir, le patron, le grand patron, alors ils nous faisaient cacher au cabinet. Voyez. Et puis, dans un moment, ils venaient nous appeler, sortez, allez, sortez. Et voilà.
Pourquoi?
Parce qu'on n'avait pas l'âge.
À quel âge on devait travailler?
À 13.
Et à cette époque-là, le règlement prévoyait qu'on était autorisé à travailler seulement à 13 ans.
À 13 ans, ah oui, et il fallait 13 ans.
Et vous, avez travaillé à 11?
À 11, la première année que j'ai eu 11 ans, je suis resté jusqu'à la fin. Et puis alors, l'année d'après, nous sommes allés à Matarel. Là, ils disaient rien, à Matarel. Alors à 13 ans, je suis revenu à la société, à la grande cave de la rue.
Et qu'est-ce que vous pouviez faire comme travail à 11 ans?
À 11 ans, pas grand-chose, je vous dis bien, le saloir là-bas. On salait le fromage, là, sur la table, on le posait par terre, là. Et c'était tout.
Et ça pèse combien, un fromage?
Un fromage, 2 kilos, 2 kilos 2, pas plus.
Donc voilà, c'était Félicie Mazeran qui évoque ses souvenirs. Et merci aussi à l'association Adiamos, une association bourguignonne d'histoire sociale, qui a fourni ses archives. Donc on l'a entendu, c'était des conditions vraiment éprouvantes de travail pour les femmes.
Absolument, oui. Et puis Félicie Mazeran dit qu'elle ne faisait que saler le fromage, mais saler le fromage 13 heures par jour, dans l'humidité et le froid. Ça laisse imaginer l'état des mains ensuite, parce que bon, c'est un travail effectivement difficile, bien qu'elle minore les difficultés. Et ce travail-là, donc, les cabanières l'effectuaient parfois d'une façon saisonnière. Et puis ensuite, lorsqu'elles prenaient un petit peu d'âge et de reconnaissance dans l'entreprise, elles pouvaient être employées à l'année. Elles effectuaient jusqu'à 11 mois et demi en tant que cabanières. Mais ça pouvait être des contrats de 3 mois, 4 mois. Au début, Félicie Mazeran a effectué des contrats saisonniers. Et puis ensuite, c'est devenu pour elle un emploi permanent. Elle a travaillé toute l'année. Oui, c'était des conditions extrêmement difficiles.
Et quand et comment elles se sont révoltées, du coup?
Alors, il y a eu deux moments. Il y a eu un moment en 1903, la veille de Noël, elles ont remis à leur employeur un cahier de doléances dans lequel elles listaient ce qu'en 1907, elles poseront sur la table. C'est-à-dire la rémunération, les conditions de service, ce que les patrons appelaient le service, c'est-à-dire le logement et la nourriture. Ensuite, le rapport qu'il y avait entre les chefs et elles-mêmes. Et donc, les patrons, à l'époque, se sont assis sur cette revendication, n'imaginant pas que ces filles de la campagne, qui n'avaient aucune histoire sociale entre elles, et il n'y avait pas de syndicat, etc., pourraient de même faire que ces revendications aboutissent par l'action. Et donc, ça, c'était en 1903. Et en 1907, alors, les conditions sont réunies parce qu'il y a une femme qui s'appelle Rose Blancard, qui a été la première secrétaire du syndicat CGT des cabanières de Roquefort, dont nous ignorons tout. On a cherché des camarades de Sainte-Afrique se sont interrogés aussi, puisque le nom de Rose Blancard a été donné à une salle syndicale à Sainte-Afrique. Mais on ignore tout. On a cherché, on n'a pas trouvé. S'il y a des gens qui ont entendu parler d'une syndicaliste Rose Blancard, on est preneur de toutes les informations. Hein. Et cette Rose Blancard, je pense que c'est elle qui a demandé à la citoyenne Sorgue de venir faire une conférence, parce que Sorgue tournait un petit peu partout. Elle est originaire de Rodez, c'est une fille qui de famille, hein, ses parents possédaient la famille, il y a des médecins, puis une grosse exploitation agricole, l'exploitation d'Arsac, donc elle ne travaillait pas. Mais elle était radicalement engagée, elle était anarchiste. Il y a toute une... On ne va pas parler de Citoyenne Sorgue, parce que c'est...
Mais d'ailleurs, Félicie Mazeran en parle dans son extrait, donc on peut l'écouter.
C'était une femme grosse, il paraît qu'elle avait une courchette inférée.
Est-ce que vous savez comment et pourquoi elle était venue?
Elle était venue, on l'a fait venir exprès pour faire cette grève, cette femme. Le soir, quand elle est arrivée, on nous l'a fait voir. C'est alors le lendemain qu'on a fait grève. Il y avait quelques jours que ça se disait qu'on voulait faire grève, vous voyez. Mais on attendait toujours quelque chose, c'est que la citoyenne. Oui.
Elle est restée longtemps avec vous?
8 jours.
Donc voilà, c'était Félicie Mazeran qui parle de la citoyenne Sorgue. Donc c'était vraiment un rôle important qu'elle a eu, cette femme, la citoyenne Sorgue, comme elle l'appelait.
Oui, oui, dès qu'il y avait une grève, elle a couru et parfois elle les préparait. On l'a vu partout, elle a été arrêtée par exemple en Italie, elle a été accusée quasiment de régicide ou d'intention régicide. Enfin, elle était à Londres, elle a été en Belgique, à De Casseville, elle a été fréquemment sur les actions. Elle a écrit quelques textes, on en possède quelques-uns, des textes un peu théoriques sur... je pense qu'elle était luxembourgiste, dirait-on aujourd'hui, hein, dans la lignée des idées de Rosa Luxembourg. C'était une anarchiste qui a soutenu, par exemple, dans le nord de la France, un anarchiste qui s'appelait Brutschou, qui avait été arrêté, mineur. Donc oui, oui, c'était une femme qui avait des capacités oratoires extraordinaires. C'était une oratrice qui était très écoutée et elle avait des capacités d'organisation. Alors, pour les femmes, elle a soutenu une femme qui est extraordinaire, qui s'appelle Madeleine Pelletier, que vous connaissez peut-être, non ? Qui est la première femme à avoir eu son diplôme de psychiatrie, s'est habillée comme un homme, qui a... creusez, vous verrez, et elle était en relation avec elle. De toute façon, le féminisme c'est ce que dit un petit peu Félicie Mazeran, la citoyenne Sorgue n'était pas affirmée à la lumière des valeurs des revues féministes d'aujourd'hui. Hein. Elle était habillée de noir avec un grand chapeau, elle avait donc, nous dit, un corset de fer.
C'est du féminisme pratique, elle est sur le terrain.
Voilà. Une grande jupe, ça permettait de courir vite. Mais...
Et donc j'ai une autre question qui me vient. En fait, j'ai entendu parler que dans les usines, et à Roquefort aussi je pense, il y avait le droit de cuissage.
Alors, oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Il y a un travail qui a été fait par une historienne qui s'appelle... alors son nom c'est Louis, son prénom je l'ai oublié. Qui a pour titre le droit de cuissage. Je vous donnerai, ça va me revenir.
On le mettra sur le podcast, à côté du podcast. Voilà.
Oui. Alors, ce qui est dit par les ouvrières, c'est nous saurons faire savoir aux familles ce qu'il advient de leurs filles quand elles sont employées dans les caves à Roquefort. Donc, c'est dit d'une façon, c'est ce qu'on a écrit là dans la revue, c'est dit d'une façon un petit peu elliptique, mais ça veut dire clairement que il y avait un certain nombre de contremaîtres qui se permettaient, ça a été repris par la CGT, la revue de la CGT, des privautés. C'est une évidence qu'il y avait 90% de femmes et 10% d'hommes, que les contremaîtres qui avaient tout pouvoir d'embauche, etc., s'autorisaient
Les viols, quoi.
Ouais, aujourd'hui, on dirait, ouais, c'est le viol était, faisait partie du contrat, quoi,
voilà,
d'embauche.
Je présume que ce devait être ça. Mmh. Hein. Si ce n'était le viol, c'était en tout cas les attouchements, etc. Ouais. Et le tutoiement, c'est ce que reprend
Le tutoiement dégradant, oui.
Voilà,
j'ai vu hein, ça.
C'est ça. Le tutoiement dégradant, elle demande à ne plus être comme ça immédiatement, traitée comme des mineurs. Ouais. Voilà, des mineurs qu'elles étaient par ailleurs considérées comme telles par l'entreprise qui les obligeait effectivement à un horaire strict, à rentrer dans des dortoirs surveillés par la plus âgée parfois, ou des religieuses, hein, avec un dénuement absolu. Elles avaient un lit, une étagère. Sur cette étagère, elles pouvaient avoir, dit un texte, quelques colis fichés, hein, c'est-à-dire rien du tout, aucune vie personnelle, aucune intimité, bien évidemment. Donc effectivement, oui.
Oui, c'était plus des contrats de vie que des contrats de travail.
C'était des contrats de vie. Oui, mais c'est en gros, je pense qu'il faut regarder ce qui se passe en Chine, dans certaines régions, ce qui se passait, aujourd'hui peut-être un peu moins, mais il y a quelques années, c'était tout à fait ça. L'ouvrier de la campagne qui arrivait dans une ville pour exécuter un travail dans une usine, il dormait dans un dortoir à 50, il avait un lit qui était parfois, quand il y avait des rotations de salariés utilisées par le camarade, il n'avait même pas son lit. Donc c'était en gros ça.
C'est ce qui se passe encore avec des ouvriers sans papier dans certains
ateliers en Europe, oui, bien sûr, dans le sentier, il est possible qu'il en soit ainsi, hein, à Paris, hein, bien sûr. Et elles n'avaient pas le droit, elles allaient obligatoirement manger chez un restaurateur qui était payé par l'entreprise. Donc, qui servait bien sûr le minimum, qui tirait le maximum de bénéfices sur ce que l'employeur leur donnait. C'est pour ça qu'elles ont revendiqué cette dignité-là. D'abord, pouvoir se nourrir comme elles l'entendaient, disposer de la somme que l'employeur, dont elles ont obtenu qu'elle soit augmentée de 23 francs à 40, qu'elle soit augmentée, mais aussi en disposer et donc être autonome, être majeure.
Et est-ce qu'elles ont obtenu, est-ce qu'elles ont gagné après ces grèves-là ?
Alors elles ont gagné, oui, elles ont gagné, mais après je ne sais pas ce qu'est devenu cet accord, hein, parce que bon, l'accord était prévu pour une durée de 2 ans, et les archives ne disent rien de ce que l'accord est devenu ensuite. Il est possible qu'au bout de 2 ans, parce que ces contrats dans la ganterie c'est pareil, ce sont des contrats de 2 ans, ensuite il y a une renégociation, mais la renégociation du contrat de 2 ans, on ne l'a pas trouvé. Parce qu'elle a dû se dérouler hors d'un conflit. Donc, il n'y avait ni le juge de paix qui est intervenu, ni le sous-préfet de Sainte-Afrique, puisqu'à l'époque, il y avait un arrondissement à Sainte-Afrique.
Et donc, à votre avis, pour conclure, est-ce qu'il y a un héritage de ces grèves de femmes aujourd'hui, dans cette région ou en général ?
Aujourd'hui, des grèves de femmes ? La dernière grève que l'on a accompagnée, nous, un petit peu, de loin, mais enfin, oui, c'était la grève de la SAM, à De Casseville, hein, de la Société Avernaise de Métallurgie, où il y avait effectivement beaucoup de femmes, mais des hommes aussi. Les femmes étaient très engagées, très présentes. Hein, Ghislaine Gistot, qui était la responsable syndicale CGT de l'entreprise, a été extrêmement présente. Des grèves de femmes seules, ben, je n'en connaît pas.
On peut citer aussi la grève des femmes de chambre à l'hôtel Ibis.
Oui, c'est ça, en dehors de l'Aveyron.
Ah, oui, bien sûr.
C'est vrai.
Bien sûr, non, je pensais que vous
me cantonniez à l'Aveyron. En général, ouais, effectivement. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Michel Delmouly. Donc, je rappelle votre revue La Main Chaude, et donc le prochain numéro sortira ce 1er mai.
Le 1er mai, comme c'est un rituel social que nous respectons depuis maintenant 11 ans.
Merci beaucoup.
Merci. Et maintenant, on va écouter un morceau en fait, qui a été chanté hier pendant la journée du droit des femmes à Millau, au Créa, nous a été révélé comme un morceau qui viendrait des Mondines. C'est Bella Ciao. Et donc, c'était les femmes italiennes qui bossaient dans les rizières dans le nord de l'Italie au 19e siècle, voilà, qui ont lutté.
Alzata, i risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare. Duro lavoro mi tocca fare, il capo in piedi col suo bastone. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone. E noi curve a lavorare, e noi curve a lavorare. Il capo in piedi col suo bastone. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone. E noi curve a mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ed ogni ora che qui passiamo, noi perdiamo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà.
Nous revoilà dans l'actuel. Nous allons parler maintenant en deuxième émission des fileuses de soie dans les Cévennes. Et nous allons avoir au téléphone Claude Anselme, qui est auteur de Rachel Cabanne, la fileuse en révolte.
Qui est peut-être déjà avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Et donc, on a voulu parler des fileuses parce que, en fait, c'est une partie économique très importante dans tout le midi de la France jusqu'aux années 50, et en particulier dans les Cévennes, parce qu'il y avait un climat particulier qui permettait la culture des mûriers, où sont élevés donc les vers à soie. Et les femmes étaient très présentes dans les métiers de la soie tout le long de la chaîne de fabrication, donc de l'élevage des vers jusqu'à la filature. Et donc Claude Anselme, on voulait commencer peut-être par vous demander quelles étaient les conditions de travail de ces ouvrières.
Alors dans le milieu de la sériciculture, vous venez de le dire, hein, les filles pouvaient commencer très très jeunes. Les filles n'allaient pas à l'école à cette époque-là. On est dans la deuxième partie du 19e siècle. Et donc effectivement, La soie, ça commence par des feuilles de mûrier, et puis ça va jusqu'aux bas de soie de luxe tels qu'ils étaient fabriqués en Cévennes. Donc tout au long de cette ligne-là, et en particulier pour la vie de Rachel Cabanne, que je raconte dans le roman, elle a commencé à travailler à 8 ans pour aller grimper dans les mûriers, chercher des feuilles, et les meilleures. Et ensuite, il y avait tout le travail de la magnanerie. Et là, c'est l'éducation des vers à soie. Il faut être assidu, il faut être présente sans arrêt, parce que ces petits animaux-là, ça dévore comme des ogres. Et ensuite, il y a le travail, lorsqu'on a produit des cocons, il y a le travail dans les filatures, qui est sans doute le plus difficile, le plus pénible, le plus dangereux pour les ouvrières. Et là, on a besoin de jeunes filles aux bons yeux et aux doigts très agiles, parce qu'il faut défaire en fait le cocon et le défaire correctement. Puis ensuite derrière, il y a les bonneteries qui tissent des bas de soie de tout premier choix. Les dames qui m'écoutent sauront ce que je veux dire quand je parle de bas couture, qui sont des bas de très haute qualité et qu'on produisait en Cévennes.
En 1889, un syndicat des fileuses de soie a vu le jour. Qu'est-ce que les ouvriers et ouvrières voulaient défendre à ce moment-là?
Alors là, à partir de 1887, en France, par les lois Malek-Rousseau, on a pu créer des syndicats. C'était facile à dire, mais c'était beaucoup plus difficile à faire. Et donc là, les ouvrières ont essayé, et par le biais, en tout cas dans la région de Saint-Hippolyte-du-Fort, avec l'aide de Rachel Cabanne, qui était vraiment intéressée parce qu'elle a été fileuse, et donc elle savait vraiment ce que c'était. Donc là, ce dont on avait besoin pour les filles, c'était d'abord du respect quand même un peu, c'était des salaires qui soient un peu plus adaptés à ces journées de travail, 10 heures, 11 heures, 12 heures par jour souvent, et puis on voulait aussi que la durée des journées de travail soit réduite. On voulait aussi, parce qu'il y avait beaucoup de maladies, les filatures, on est dans la vapeur, on respire la poussière de soie, et beaucoup de fileuses étaient malades, donc on voulait la création d'une caisse d'assistance et de prévoyance pour les ouvrières malades. Donc ça a été vraiment un rude combat, mais les revendications étaient celles-ci, au départ étaient celles-ci.
Et donc Rachel Cabanne, votre arrière-grand-mère, a participé à l'organisation de ce syndicat.
Voilà, il fallait le faire. Alors évidemment, elle a été aidée, et là, vraiment, elle l'a dit et redit souvent, par son mari, Alphonse, qui était cordonnier, parce que seul, c'était difficile. Mais il y avait aussi au village des élus, et même les députés ou les conseillers généraux, comme on disait à l'époque, qui allaient dans ce sens-là pour essayer quand même de faire avancer quand même ses revendications. Donc elle était pas seule, sa force ça a été de mobiliser de plus en plus de monde. Pour mobiliser les ouvrières, ça a été plus facile parce que elles ont senti chez Rachel une petite lumière là qui commençait à s'allumer. C'était vraiment inespéré, et elles ont fait tout ce qu'elles ont pu pour arriver à faire avancer ces revendications.
Du coup, quels ont été les résultats concrètement sur le terrain après ?
Alors, il y a eu beaucoup de luttes, hein, il faut le savoir. Une fois que le syndicat est créé, ça ne fait pas trop plaisir au patron filateur. Et donc, il est arrivé aux oreilles via les députés, de Pastre et Devez, les députés des Cévennes. Il est arrivé aux oreilles de Rachel que le gouvernement de l'époque voulait mettre en place une série d'aides, de primes à la filature, pour aider les patrons filateurs à lutter contre la concurrence des soies étrangères, asiatiques en particulier. Et donc, pour ça, elle s'est dit, mais dans cette loi qui va sortir, dans cette aide qui va être allouée aux patrons, il faut absolument qu'il y ait un pavé social, parce que c'est là qu'on pourrait parler au gouvernement des revendications des ouvrières. Donc ça, évidemment, il a fallu monter tout ça. Ça n'a pas été facile, ça a pris de nombreuses années, parce que tout ça, ça doit passer en commission, à l'Assemblée nationale. Et donc elles ont été invitées, elles sont montées, assises de nos fileuses, deux de Saint-Hippolyte-du-Fort, deux d'Anduze, deux de Ganges. Elles sont montées en 1909 à l'Assemblée, et elles sont allées parler dans la salle des commissions, de la commission du travail, pour présenter leurs revendications. J'aime autant vous dire que là, des ouvrières jeunes et qui parlent parfaitement le français, parce que elles ne sont pas allées à l'école, ni les unes ni les autres, mais elles avaient appris à lire avec leur maman, le plus souvent dans les livres religieux, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les psaumes, dans les cantiques. Et donc elles savaient s'exprimer avec un français parfait, alors que sur le terrain on parlait occitan. Et elles ont pu montrer vraiment, en parlant avec leur cœur, quoi, et j'allais dire avec leur tripes, pour montrer vraiment les difficultés que rencontraient sur le terrain ces filles-là. Beaucoup d'accidents du travail, beaucoup d'accidents parfois mortels, des maladies, etc.
Oui, c'est assez donc courageux quand même de leur part, et de oui, se retrouver face à tous ces hommes lettrés, de pouvoir misogyne.
Oui, alors, c'est vrai que quand elle racontait ça, nous on a ça dans les archives familiales, hein, quand elle racontait ça, elle disait, ils étaient tous étonnés de nous entendre parler, avec leurs grosses bedaines et leurs cigares en fumant. c'était un peu... Et donc, il a fallu attendre après leur passage. Elles avaient fait bonne impression, oui, les députés des Cévennes leur ont dit. Il a fallu attendre pratiquement un an avant qu'un jour arrive la décision qui est tombée depuis Paris. C'est le député Pastre qui est venu apporter le document. RHL, au milieu de la place principale du village, le plan, a invité toutes les fileuses, tout le monde, et tout le village, et tout le monde de la sériciculture pour annoncer que, ben, voilà, les journées de travail seraient désormais limitées à 8 heures,
ouais.
Qu'une partie des primes allouées au patron serait impérativement attribuée aux conditions de travail et aux conditions de salaire, et qu'une caisse de prévoyance et d'assistance allait être créée avec participation de 5% du patronat.
Ouais, génial.
Donc,
c'est vraiment
j'aime autant vous dire que sur la place,
une
ça
belle
a
histoire.
Ouais.
Oui, ça a dû faire une belle fête après ça.
et donc peut-être pour conclure, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez reconstruit l'histoire de Rachel Caban ? Est-ce que vous avez trouvé des archives, des photos ?
Alors, moi, je suis un passionné de l'histoire des Cévennes. Dans ma famille, on avait gardé par le biais de sa fille, de la fille de Rachel Caban, qui se prénommait aussi Rachel, on a gardé toutes ces archives-là. Donc on a fait les dates, jusqu'au ticket de train qui leur ont permis de monter à Paris, etc. Donc on avait gardé tout ça. Et donc je voulais quand même, avec la retraite qui est arrivée, j'avais un peu plus de temps, je voulais quand même rendre hommage à cette femme d'exception, mais aussi raconter tout ce qui se passe tout ce qui se passait dans l'environnement et tout ce qui se passait dans les filatures, ces filatures aux fileuses de l'objet, où les filles étaient emprisonnées et ne pouvaient sortir qu'une demi-journée par semaine. Toutes ces mises à la porte arbitraires, tous ces licenciements, donc je voulais élargir tout ça, tout en sachant que, d'une part, il y avait la misère de ces filles, et d'autre part, il y avait quand même la richesse. Des produits d'exception qui sortaient, bon, ces fameux bas coutures, dont un jour le maire de Tarascon a dit en écrivant à son député qu'ils étaient si chers que toute une vie de travail d'une fileuse ne suffirait pas à en acheter une paire.
Oh, oui, donc vraiment des inégalités très très fortes. En tout cas, merci beaucoup Claude Anselme. Je rappelle votre livre Rachel Caban, la fileuse en révolte, qui est en vente au musée de la soie de Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard. Merci beaucoup.
Voilà. Merci.
Voilà. Merci.
Au revoir. Et puis pour rester dans le thème, on a trouvé une petite chanson occitane qui parle des fileuses, chantée par Rosine, Martine et Claire de Père. Rapidement, les paroles disent « Là-bas vers la rivière, il y a une riche maison, dedans sont trois fileuses qui filent tout au long du jour. » Et donc voilà, raconte un peu le quotidien des fileuses. On l'écoute tout de suite.
Là-bas, là, la rivière, il y a une riche maison. Dedin son tres fieleiros que fieron tu lo yon. Uno sapero llano y la otro marigun. La otro sapero claro es claro neite yon. Samai de la penche non in penche da gentu. Es un paire la cofio di nauno de galun. Cantero se miraglio di naigo de la fun. Unau se lusi pauso per li falu rasu. Lo fil del rei passavo la trovado alla fun. Digas vero fielairo a cos bugiane tu. N'anima sorrainado sapero da che no.
se sera d'una mio dintra din la maison.
Et voilà, c'est l'heure de la chronique avec Alex, aujourd'hui avec une lecture en lien avec la grève des femmes.
Oui, voilà, dans cette thématique femmes en grève, grève de femmes, j'avais envie de partager autour du livre que je suis en train de lire, un ouvrage écrit par la citoyenne Starwalk, pour faire un petit clin d'œil, qui s'intitule donc « Comment s'organiser, manuel pour l'action collective ». Donc je vais commencer par présenter l'autrice. Starwalk, c'est le nom de lutte de Myriam Simos, il signifie faucon étoile, ou étoile faucon, quoi. Bon. Un nom qui lui a paru en rêve. Une militante, donc c'est une militante antinucléaire, altermondialiste, activiste, non violente, néo-païenne, écoféministe. Donc Starwalk agit et agite, explore et invente un militantisme créatif et festif. C'est ça, une de ses particularités. Donc pour revenir sur l'écoféminisme, on peut dire que c'est un courant de pensée qui est né de la conjonction des idées féministes et écologistes, qui considère qu'il existe des similitudes entre les systèmes d'oppression des femmes par les hommes et les systèmes de surexploitation de la nature par les humains, qui sont souvent des hommes, soit dit en passant. Donc les rapports de force imposés dans la domination de genre sont identiques à ceux permettant l'exploitation de la terre par l'homme. On traite la terre comme on traite les femmes et vice-versa, en cherchant à en tirer profit, sans se soucier des conséquences, voire même en sachant que les conséquences affaibliront et faciliteront l'exploitation. L'écoféminisme dénonce un patriarcat capitaliste et les met donc bien en lien et en rapport. L'exploitation systémique des minorités, la mainmise sur la fertilité des sols comme des utérus, la dévalorisation du soin et de la sensibilité au vivant. L'écoféminisme invite chacun et chacune à repenser les relations entre les genres, les humains et la nature. On peut se rappeler la phrase « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature » des zadistes. Donc Starwalk a publié tout au long de ses luttes plusieurs livres, son plus connu est sans doute Révé l'obscur, pour esquisser un monde, un meilleur futur. Elle y raconte sa participation au mouvement antimilitariste, antinucléaire et altermondialiste. Elle invite chacun et chacune à prendre conscience de son pouvoir d'agir, de son pouvoir de création, à le mettre en œuvre à sa mesure et à resserrer les liens avec les autres. Donc, dans son livre intitulé « Comment s'organiser, manuel pour l'action collective », Starwalk décortique les mécanismes qui amènent souvent freins, pièges et autres problématiques paralysant les collectifs en action. Et elle y présente en détail et concrètement des outils, des stratégies, des compétences permettant de travailler en groupe de manière fluide et régénératrice pour renverser la machine, pour ne pas dire le pouvoir.
Merci beaucoup, Alex.
Merci. J'aimerais juste rajouter un petit truc à ce que tu as dit, parce que en fait, j'adore Françoise Aubonne, qui est l'écoféministe française, et le truc des ordas, les orgas collectives, c'est trop bien, mais parfois il faut faire un tout petit collectif, et elle a réussi à mettre une bombe pour détruire un réacteur durant la construction d'une centrale, ce qui a ralenti la construction de 2 ans, et elle a réussi à le cacher, et on l'a su qu'à sa mort, et je trouvais ça chouette aussi d'avoir ce type d'astuces.
Oui. Et moi, j'ai lu aujourd'hui que les éditions Cambourakis ont republié un livre de Françoise Daubonne qui s'appelle « Contre-violence ». Donc voilà, toujours en lien avec les thématiques qu'on vient d'explorer. Et c'est déjà la conclusion de cette émission. Donc voilà, merci beaucoup à nouveau à nos invités Michel Delmouly et Claude Anselme. Merci beaucoup à Nico à la technique. Merci Alex pour ta chronique. Et cette émission est rediffusée vendredi à 19h. Et n'oubliez pas aussi le freestyle intempestif.
Oui, pour avoir la fin, enfin les témoignages en fait. On a bien teasé quoi. D'Ukraine, des féministes LGBTQIA+, en lutte.
Et tous ces podcasts seront disponibles sur le site et on va créer aussi une page avec tous les contenus autour du 8 mars, notamment les portraits sonores aussi que vous pouvez toujours écouter jusqu'à samedi à 13h30 et à 18h30 sur Radio Larzac et puis aussi quelques-uns la semaine prochaine. Merci et bonne continuation à vous sur nos ondes.